Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Le cirque Gérard entre dans notre gare dans quelques minutes, mais à 8h40, on va s'intéresser à notre revue de presse en compagnie d'Isabelle Choquet. Et dans vos journaux ce matin, l'inégalité des chances, Isabelle.
Oui, en ce jour de brevet, Yves, je vous emmène au Collège République de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. En fait, de République, c'est plutôt une petite dictature, à en croire une étonnante enquête de Libération. République, c'est un établissement en éducation prioritaire, 61% de boursiers. Le personnel est divisé en deux clans, écrit Libé. L'ambiance, digne d'une trame de téléfilm, on dirait les Montaigu et les Capulet. Certains s'expriment à visage découvert avec beaucoup d'assurance sous leur bannière rouge et noire. Ce sont des enseignants adhérents à Sud Éducation. Ils sont une quinzaine dans cet établissement. République, c'est leur collège, l'un des mieux dotés de l'académie. Les autres ne parlent que s'ils sont sûrs de ne pas être reconnus. Ils décrivent une salle d'épreuve, des profs physiquement divisés en deux, avec la famille Sud d'un côté et les autres à l'écart. Ils broient toute personne qui a un avis contraire, dit un enseignant qui est parti il y a longtemps. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes ignoré, méprisé, considéré comme stupide. Un autre raconte les insultes et les rumeurs quand il a essayé de leur tenir tête pour que les élèves de 3e partent en stage. Comme partout, quoi. Ben ici, non. Car pour ces profs, dit-il, c'était participer au grand capitalisme. Oula. Certains les suivent pour avoir la paix, pour éviter les noms d'oiseaux qui volent à tout bout de champ, des salopes, sales putes, collabos. Deux de ces profs syndiqués ont reçu un blâme. Ils se disent victimes de répression syndicale. L'un d'eux avait écrit en rouge au tableau « Vous êtes des porcs sans avenir ». Il assure qu'il regrette, qu'il a craqué. Un ancien membre de la direction parle d'un sentiment d'impunité très ancré. Ils osent tout, dit-il. Il y a des cours annulés en pagaille, pas un seul jour avec l'équipe des 70 profs au complet, en moyenne 7 profs absents chaque jour. Parfois, on se retrouve avec plus d'une centaine d'élèves sur les bras, obligés de les mettre dans le réfectoire. Alors après plusieurs alertes et même une enseignante au bord du suicide, une enquête interne a été ouverte, mais le mal est fait. Quand Libé demande à une collégienne ce qu'elle aimerait faire plus tard, elle répond « J'aurais bien aimé être avocate, j'étais intelligente au primaire, mais dans ce collège, je n'ai pas évolué et maintenant c'est trop tard. »
Ce serait intéressant aussi de savoir s'il y a un chef d'établissement. Dans l'équipe ce matin, un monsieur, il s'appelle Antonin Roland.
Et si son nom ne vous dit rien, c'est que vous n'étiez peut-être pas né. Pour suivre ses exploits, Antonin Roland, c'est le plus vieux français porteur du maillot jaune encore en vie. Il a 94 ans, il vit à Villefranche-sur-Saône. Pour l'anecdote, c'est le grand-père de la championne de ski Marion Roland. Son maillot jaune, c'était en 1955. 12 jours de parenthèse dorée entre Metz et Toulouse, mais il s'en souvient comme si c'était l'été dernier. En 53, déjà, il était 7e au général, mais en 55, je crois que je n'ai jamais été aussi fort, dit-il. Seulement voilà, il portait les couleurs de l'équipe de France, réunie autour de la stature de Louison Bobet. C'est sûr qu'on était une équipe de costauds. Bobet, il n'aimait pas quand ça roulait au ralenti. Bobet, qui avait été clair, ça m'embête pour toi, mais je voudrais bien gagner mon 3e tour. Donc, j'ai donné ma parole, dit Antonin. Et sa parole, il l'a tenue. Prendre ce maillot jaune, c'est venu en cours de route, avoue-t-il. Je n'ai pas voulu l'enfiler avant que le peloton soit arrivé, je voulais être sûr. À l'époque, il n'y avait pas de podium. C'est Yvette Horner qui nous le remettait comme ça au milieu de la foule. Des maillots jaunes, il lui en reste deux aujourd'hui. L'un est encadré dans le salon au volet clos. L'autre est rangé dans un carton un petit peu délavé, un peu mangé humide peut-être. Quand il faisait chaud, il fallait supporter la laine, dit Antonin. Et quand on le mouillait, il pesait son poids. Tout ça, c'est à lire dans l'équipe. Mais ce maillot jaune, définitivement pour lui, c'est quand même le plus beau, même mangé humide.
Autre grande odyssée à venir, celle du plongeur Laurent Balesta.
Ancien bras droit de Nicolas Hulot, version Ushuaïa. Hulot qui est venu encourager son ami samedi, car à partir d'aujourd'hui, Balesta, le biologiste marin, le photographe de l'océan, se lance dans un incroyable défi repoussant les limites humaines de la résistance aux profondeurs. Il s'immerge avec 3 compagnons pendant 28 jours pour aller sonder et immortaliser la vie marine de la Méditerranée jusqu'à 120 mètres de profondeur. Cette aventure est dévoilée dans Midi Libre. Le défi, c'est de plonger sans passer des heures à faire des paliers de décompression. Alors pour cela, en dehors des immersions, les gars vont dormir dans une toute petite station pressurisée. L'air qu'ils respireront sera le même que dans leur bouteille d'hélium, comme s'ils étaient à 120 mètres. Nous avons fait un test de 48 heures, dit Balesta. Là, on s'embarque pour 28 jours. C'est l'inconnu au fond qu'ils attendront avec un ascenseur. Ils seront par deux et pour éviter de se perdre, un fil d'Ariane sera déployé. Oui, c'est dangereux psychologiquement de rester dans 5 mètres carrés, mais on y sera pour dormir. Et puis, j'ai bien choisi mes compagnons, dit Balesta. On se connaît bien. Et même si l'hélium donne une voix de canard, ils sont très peu bavards.
Bon, moi, je préfère rester sur la plage. Hein.
Oui, vacances, plage, terrasse. Et avouons-le, Yves, pour passer le temps sur la serviette, on se laissera peut-être tenter cet été par un magazine People. rôle, on rêvera un peu en découvrant des chanteuses réfugiées dans leur villa de rêve. Mais on apprendra aussi peut-être qu'une telle a sombré dans une dépression et qu'elle a pris 15 kilos et qu'elle ne veut plus se montrer ou que machin est en désintox. Et là, on se dira, mais enfin, ils ont tout pour être heureux, ces gens, c'est quoi leur problème? Le Figaro se penche sur la question ce matin de façon très scientifique. Et le verdict tombe, ces gens-là ne sont pas comme vous et moi. D'abord, la plupart des people se distinguent par une hyperactivité cérébrale. Souvent, ça les a mis en échec scolaire quand ils étaient petits, mais ensuite, ça leur a été plutôt utile. Un cerveau qui turbine en permanence, c'est bon pour la créativité. Mais à la fin, ça tourne à la maladie professionnelle. Un addictologue explique, la vie trépidante de star crée une sorte de dépendance, une addiction à l'excès. C'est là qu'on tombe dans la drogue, un peu de coke pour maintenir un hyper-rythme automatique, des opiacés pour donner un peu de repos à une âme surexposée. Autre point commun à beaucoup de célébrités, des parents terribles, parents trop présents, terriblement narcissiques qui se servent de leurs enfants pour briller. Vous vous souvenez bien sûr de Michael Jackson ou Amy Winehouse. Ou à l'inverse, des parents injustes, des parents parfois absents. La mère de La Callas ou de Juliette Gréco qui dit « Je n'étais qu'une enfant en quête d'une mère de son regard ». Bref, nos stars sont souvent des résilients. Elles se sont hissées au sommet pour préparer une maldonne de départ, mais le remède est parfois un poison. Le seul antidote, paraît-il, ce sont des proches qui ont les pieds sur terre, qui ne perdent pas les pédales.
Et cette revue de presse, Pieds sur terre, nous a été proposée par Isabelle Choquet.